VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Abidjan, 17h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique centrale. En RCA, les 6 policiers pris en otage par des hommes armés au PK5 à Bangui n'ont pas encore recouvré la liberté. Ils sont encore aux mains de leurs ravisseurs. Des détails avec Clarisse Yapelego, rédactrice du magazine économique et politique L'Innovation Afrique à Bangui. On l'écoute au micro de Félix Yepassis Zembrou.
Alors, les 6 policiers pris en otage, ils sont toujours entre les mains de leurs détracteurs. Ce matin, la MINUSCA et les autorités de la place se sont rendus au kilomètre 5 pour négocier la libération de ces 6 policiers en otage, mais ça n'a pas marché parce que bon, les autochtones étaient très remontés parce que dans la nuit d'hier à ce matin, il y a eu beaucoup de morts quand même au kilomètre 5. Et donc, les habitants de ce quartier se sont manifestés. Ils ont voulu marcher sur la MINUSCA, venir vers la MINUSCA pour manifester, dénoncer ce qui se passe au kilomètre 5, dénoncer la présence de ces groupes armés qui sévissent dans leur quartier.
Mais quelles sont les revendications de ces ravisseurs?
Alors, les revendications pour l'instant sont restées top secret. Je pense que la MINUSCA le sait, mais ça n'a pas été révélé.
Clarisse Yapelego, rédactrice du magazine économique et politique L'Innovation Afrique à Bangui. On reste en RCA. Les effectifs militaires français ramenaient maintenant seulement 350 soldats, ce qui marque la fin de facto de l'opération française Sangaris dans le pays. L'état-major des armées françaises a annoncé dans un tweet aujourd'hui, désormais Sangaris constitue une force de réserve tactique au profit des 12 500 casques bleus de la MINUSCA. Au plus fort des tensions en Centrafrique, la France avait mobilisé jusqu'à 2500 soldats dans le cadre de l'opération Sangaris pour mettre fin aux violences intercommunautaires. Fin du procès de l'ancien vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba, à la Cour pénale internationale de La Haye. Monsieur Bemba a été condamné mardi à 18 ans de prison pour les exactions commises par ses miliciens du MLC en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. Au micro de Félicie Passy-Zembrou, l'avocate des victimes, maître Marie-Edith Douzima, exprime sa joie à l'issue de ce procès marathon qui a duré plus de 8 ans.
Oui, c'est un sentiment de satisfaction, même si je pensais qu'il allait écoper plus que ça. Je pensais à 20 ans, mais il a eu 18 ans. De l'histoire de la Cour, selon la jurisprudence de la Cour, c'est la peine la plus élevée que la Cour connaît depuis qu'elle a commencé à juger les chefs de guerre. C'est le premier chef de guerre à écoper 18 ans, donc plus que les autres.
Qu'en sera-t-il, maître, des victimes en ce qui concerne les indemnisations?
La Cour a dit que dans les jours à venir, elle prendra une décision pour dire comment ça va se passer. Il faut rappeler que dans cette affaire, il y a plus de 5000 victimes, donc c'est l'affaire dans laquelle il y a plus de victimes. Donc on a battu le record à ce niveau. Et la Chambre verra comment ça va se passer. Nous attendons sa décision, mais toujours est-il que j'ai déjà eu à dire dans mes écrits à la Cour ce que les victimes centrafricaines attendent de la Cour par rapport à cette affaire.
Voyez-vous dans ce verdict d'aujourd'hui de Jean-Pierre Bemba un message en direction des autorités de la République centrafricaine qui ont mis en place une Cour pénale spéciale ce qui concerne les exactions qui ont été commises durant les dernières années?
Oui, vous savez que la Cour pénale internationale n'est intervient que lorsqu'il n'y a pas eu de jugement sur le plan national. Et donc, nous estimons que la mise en place de la Cour pénale spéciale en République centrafricaine, qui est une juridiction nationale, bien qu'il y ait des juges internationaux qui vont intervenir dans cette Cour, c'est une bonne chose. Et nous espérons qu'il y aura d'abord une bonne collaboration entre cette Cour et la Cour pénale internationale, puisque la Cour pénale internationale est dite par les autorités centrafricaines par rapport aux exactions qui ont été commises depuis 2012. Je crois que ça sera une justice de proximité. Les victimes seront là sur place, parce que bien que les victimes sur les 5229 victimes qui ont été reconnues par la Cour pénale internationale, certaines sont venues témoigner ici, mais il y a cette distance qui sépare le lieu où résident les victimes et la Cour. Donc, organiser des procès au niveau national serait une très bonne chose pour les victimes.
Maître Marie-Edith Douzima, avocate des victimes centrafricaines de la milice de Jean-Pierre Bemba.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, le Mali veut changer sa constitution. Un comité d'experts composé uniquement de Maliens a été mis en place à cet effet. Les précisions de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est l'avocat Maître Mamadou Ismaël Konaté qui est le président du comité. Il n'a que 6 mois pour présenter son rapport. Le travail interne à court a permis d'élaborer les documents de base tels que la note d'orientation, la note méthodologique, la segmentation de la constitution, la synthèse des travaux de commission précédemment mis en place pour les réformes non abouties, l'élaboration des thèmes et opinions des jurisconsultes, la mise en place des commissions d'écoute des opinions des jurisconsultes, l'analyse des expériences d'ailleurs. Ce comité a l'avantage d'avoir en son sein des juristes et des personnes et ressources de qualité. Ce comité a la lourde responsabilité d'accomplir une mission noble et combien importante pour l'avenir du Mali, car il s'agit de la loi fondamentale de la République. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Gambie, 3 hommes poursuivis pour avoir accusé le président Yahya Jammeh d'animosité envers les Mandingues ont comparu mardi devant un tribunal de Banjul. Selon l'avocat des prévenus, leurs aveux ont été obtenus de force. Idriss Fall.
Selon l'acte d'accusation, Ebri Maketa, Moussa Fofana et Alassane Diallo ont dit que les autorités ont enlevé Solo Sandeng, un opposant décédé pendant sa détention. Les 3 prévenus auraient reproché au président Yahya Jammeh de ne pas aimer les Mandingues. Leur avocat Abdoulaye Fatih affirme qu'ils ont été battus, menacés avec une arme et contraints de faire des aveux écrits. Le président Yahya Jammeh est de l'ethnie Diola, alors que le chef de l'opposition, Ousseynou Darbo, lui aussi en prison, est un Mandingue. Pendant un meeting à Talendeng, non loin de Banjul, le président Jammeh a affirmé que tous les fauteurs de troubles dans le pays étaient des Mandingues. Adama Dian, le conseiller spécial de l'ONU pour la prévention du génocide, s'est ému de ce discours contre les Mandingues, surtout lorsque Yahya Jammeh menace de les tuer un par un. Monsieur Dian rappelle que cette rhétorique au vitriol et les discours de haine peuvent aussi constituer un facteur de déclenchement d'atrocités, comme on l'a vu au Rwanda en 1994.
En Libye, poursuite des combats à Sirte, au moins 34 membres des forces pro-gouvernementales ont été tués, 100 blessés hier dans les affrontements avec le groupe État islamique assiégé dans son fief libyen. Le bilan des pertes des djihadistes n'est pas connu. Actualité aux États-Unis, au Sénat américain poursuit des efforts de plusieurs parlementaires pour obtenir un durcissement des lois sur les armes à feu après la mort de 49 personnes à Orlando, en Floride, dans la fusillade perpétrée par Omar Mateen le 12 juin. Mais à un mois des conventions d'investiture présidentielle, il semble improbable que les législateurs s'accordent sur ce sujet brûlant de la politique américaine. L'interprétation du second amendement de la Constitution américaine autorisant le port d'armes, un sujet qui est dans l'impasse depuis des années. Pour une analyse, Nathalie Borge a joint Vincent Michelot, professeur d'histoire politique des États-Unis à Sciences Po Lyon.
On ne peut pas attendre d'aménagement sur la législation sur le port d'armes avant au moins le printemps, si ce n'est le début de l'été 2017, une fois qu'on aura un nouveau congrès, un nouveau président ou une nouvelle présidente.
Dans la campagne électorale elle-même, quels sont les poids des uns et des autres par rapport à ce débat sur les armes ?
Le débat sur les armes embarrasse le Parti démocrate qui est partagé. On sait qu'un certain nombre d'élus démocrates, par exemple Joe Manchin en Virginie-Occidentale, sont très opposés à une forme de resserrement du port d'armes. Côté républicain, on veut en faire une question de mobilisation des électeurs, en quelque sorte pour les effrayer sur l'éventualité d'un État trop puissant qui priverait les citoyens de leur liberté.
Le professeur Vincent Michelot, spécialiste de politique américaine. Et pour terminer, en Europe, à la veille du référendum britannique sur le maintien ou non du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, le spectre d'un Brexit, un possible départ de Londres de l'UE, continue de planer. Le président français François Hollande a averti aujourd'hui que Paris considérait un retrait du Royaume-Uni comme irréversible. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.